Lorsque je peins ou je dessine, j'éprouve un besoin de communion intime avec l'objet qui m'inspire, quel qu'il soit. Je m'identifie à lui et c'est ce qui crée une expression sensible qui est le fond de mon art. La richesse des moyens n'est jamais suffisante si l'artiste ne peut lui faire exprimer la tendresse intérieure qu'il éprouve pour tout ce qui existe.
Une vie, une œuvre, Henri Matisse, une émission de Paul Chabas.
La première chose que l'on peut dire, c'est Matisse qui le dit lui-même. Il dit au fond qu'il a été toujours extrêmement surpris de sa vocation, qu'il l'a toujours considéré comme quelque chose de complètement inattendu. C'est au moment où on ouvre au Cateau Cambrésis, donc le village du Nord où il est né, au moment où on ouvre le musée qui lui est consacré, qu'il déclare, au fond, l'art a toujours été quelque chose d'étranger à ma vie d'homme normal.
C'est vrai qu'il a vécu une vie bourgeoise d'apparence, enfin bourgeoise parce qu'il habitait une grande maison à partir des années 8-9 quand il a eu des collectionneurs et des marchands qui lui ont permis de travailler dans des conditions certes plus qu'acceptables. Il a vécu normalement et bourgeoisement. Il a volontairement donné cette image de lui-même, il a insisté auprès des journalistes. Dès 1913, il disait à une journaliste américaine qu'il était un homme normal, un père de famille, qu'il avait un beau jardin. Et dites bien aux Américains que je suis un homme normal. Il n'a pas du tout joué les artistes maudits, bohèmes, alcool, etc. Pas du tout. Pas du tout cette image-là.
Chacun s'accorde aujourd'hui à voir en Matisse le plus grand des modernes. C'est-à-dire avoir en Matisse celui qui a bouleversé, remué les données de base de la peinture et qui les a changées de fond en comble. C'est lui qui l'a fait en intégrant tout le passé de la peinture occidentale, en ne se coupant de rien et en emmenant toute la tradition jusqu'à un point d'avancée extrême. Et je crois qu'il n'y a pas un peintre aujourd'hui qui ne pourrait trouver à se nourrir et qui ne trouve à se nourrir dans l'œuvre de Matisse, ça je suis certain. Parce que je crois qu'il est vraiment le moderne des modernes.
Pour moi, il n'y a pas deux sortes de choses qui comptent. C'est surtout l'inspiration de l'artiste qui fait le style de l'œuvre. Moi, je me suis trouvé avec le même respect de la nature, la même religieuse émotion, devant des choses tout à fait différentes, des fruits, des fleurs, des paysages, des visages. C'est surtout l'émotion que j'avais devant ces choses-là qui me faisait travailler.
Au Musée national d'art moderne à Paris se tient une exposition Henri Matisse, quelques 150 peintures et sculptures créées entre 1904 et 1917. Commissaire de cette exposition, Isabelle Monofontaine et Dominique Fourcade.
Cette période a été choisie parce que nous la considérons, Isabelle Monofontaine et moi-même qui faisons l'exposition ensemble, nous la considérons comme la période la plus importante de l'œuvre de Matisse. Ce sont les 14 années où Matisse modifie décisivement les rapports du dessin et de la couleur. En ce sens que il accède enfin en 1904 avec Lux, calme et volupté, il fait un premier pas vers une démarche où il confie à la couleur le soin d'exprimer la forme et non plus au dessin. Il confie donc à la couleur le soin d'exprimer la forme, puis ensuite il confie à la couleur le soin d'exprimer l'espace. Ce qui aboutit à modifier le rôle de la couleur et à modifier l'être de la couleur, et à modifier même toute façon de peindre, puis toute façon de voir le monde. Et à la fin, élargissant sur 14 années cette démarche, on finit par arriver à quelque chose où les formes ne sont plus distinctes de l'espace, il y a un seul grand chromatisme sur la surface, que c'est un moment capital de la peinture occidentale, qu'il a fallu à Matisse 14 années pour l'élaborer, non sans heurts, non sans pause, non sans retour en arrière, non sans bond en avant, très inattendu, et que l'exposition se termine avec des peintures que personne ne pouvait attendre, que personne ne pouvait espérer ou prévoir dans la grande séquence de la peinture occidentale.
Comment se fait-il que les œuvres aient été ainsi dispersées, les œuvres de cette période ?
Mais c'est une histoire très complexe. Au début de sa carrière, ou du moins, car la carrière de Matisse commence vraiment en 1904, bien qu'il ait commencé de peindre bien longtemps avant cela, au début de sa vraie carrière, et quand il commence d'être connu, il y a quelques grands collectionneurs qui réunissent de grands ensembles de son œuvre. Ces grands collectionneurs sont principalement, à Paris, Gertrude Stein, l'écrivain, le poète, Léo Stein, son frère, et un autre frère, Michael, et sa femme, Sarah Stein. Il y a en Allemagne un Allemand d'un grand courage qui s'appelle Karl Ernst Hosthaus, qui collectionne et qui fait de sa collection immédiatement un musée. Au fur et à mesure qu'il achète, ça passe dans sa maison est son musée. C'est le Folkwang Museum à Hagen, dans la Ruhr. C'est le premier musée d'art moderne au monde. Il y a, à peine plus tard, en Russie, deux Russes d'un énorme courage, l'un qui s'appelle Morozov et l'autre qui s'appelle Sergei Shtoukine. Shtoukine, c'est le plus grand collectionneur de Matisse, de loin, au-dessus de tous les autres, qui assemble les tableaux les plus forts, les plus courageux, les plus grands, jusqu'à la déclaration de guerre, jusqu'en 1914, et qui, surtout Shtoukine. Shtoukine doit être distingué de tous les autres collectionneurs au monde. Et puis, il y a un Danois qui s'appelle Christian Tetzenlund, qui assemble lui aussi une collection en rachetant une partie de la collection des Stein, et qui, en 1920, se trouve être la deuxième collection au monde, après celle de Shtoukine, qui sera ensuite dispersée dans plusieurs ventes, et dont il reste une partie absolument superbe au Statens Museum for Kunst à Copenhague. Mais la partie qui reste ne reflète qu'une très faible idée de ce grand ensemble de Tetzenlund. Donc ça, c'était les grands collectionneurs, et tout ça, c'était des étrangers, bien que les Stein résidaient à Paris, mais c'était des étrangers. Ensuite, les Français ont acheté très tôt des œuvres très importantes de Matisse, mais aucun Français n'a constitué d'ensemble aussi important. Et ce qui n'a pas pris le relais, en France, sont les musées. Les musées n'ont pas pris le relais à l'époque où ils auraient pu et où ils auraient dû le faire. Ils l'ont pris que trop tard. Ça a commencé qu'avec Jean Cassou en 1945, après la Deuxième Guerre mondiale, à l'époque où il était déjà beaucoup plus difficile de réunir des Matisse importants et où c'était déjà très très cher. C'est puis ensuite, il y a eu une nouvelle stagnation après Jean Cassou, et ça a été relayé et amplifié, l'ambition de constituer une collection a été amplifiée et relayée par Dominique Bozo dans les années 80. Et grâce à ces deux personnes principalement, il y a des Matisse en France. Mais pour le reste, les Français qui avaient individuellement acheté des œuvres très importantes, par exemple la fine fleur des tableaux fauves, a appartenu à des Français. Une toile aussi importante que les baigneuses à la rivière de Chicago était encore dans une collection française en 1951. La leçon de piano était dans une collection française jusqu'en 1940. La leçon de piano qui est un des joyaux de la collection de New York, etc., etc. Mais tout ça était individuel et a été dispersé parce qu'aucun musée n'a songé à les retenir. Voilà.
Marcelin Plenet.
Rien, vraiment rien, ne le destine à devenir le grand artiste, le plus grand artiste français qui existe au XXe siècle, qu'il devient très 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 vite. Il est né donc au Cateau-Cambrésis.
En 1869,
d'une famille plus que modeste. La mère avait travaillé à Paris dans la mode, à fabriquer des chapeaux. Le père avait travaillé aussi un peu dans le commerce à Paris. Au moment où Henri Matisse vient au monde, ils ont au Cateau un tout petit commerce de grainerie. Et ils espèrent bien que le fils qui vient de naître va prendre la charge de ce commerce. Or, il se trouve que la santé de l'enfant est assez fragile. Et qu'on s'aperçoit assez vite qu'il ne va sans doute pas faire cela. Donc, on va l'inscrire au collège à Saint-Quentin, et il va faire des études de droit. D'ailleurs, il va rentrer chez un avoué, où il va travailler pendant un certain temps, tout en étant très peu satisfait par ce qu'il faisait, mais avec un tempérament qui est tout à fait le tempérament matissien, c'est-à-dire un tempérament du devoir et du travail. Il répétera d'ailleurs encore une fois à la fin de sa vie, c'est-à-dire c'est un vieil homme qui dit des choses comme ça, « Je me suis toujours efforcé de suivre le conseil de mes parents, dépêche-toi et travaille. » Donc il se dépêche au travail, et il va être tout aussi consciencieux dans ses études de droit qu'il le sera plus tard comme peintre. Par exemple, pour faire ses études de droit, il vient pendant un certain temps à Paris, et c'est tout à fait étonnant. Pendant tout ce séjour à Paris, il ne s'occupera pas du tout de peinture, il n'ira voir aucun musée, il n'ira pas voir le Louvre, il n'ira voir aucune exposition, il ne sait pas encore ce que c'est que la peinture. Et c'est un accident. Et les accidents biographiques et les accidents physiques sont extrêmement importants dans la vie de Matisse. C'est un accident, c'est-à-dire une crise qu'on a pensé être une crise d'appendicite, une opération en tout cas, qui le retient adolescent immobile. Et sa mère lui fait cadeau d'une boîte de peinture, comme on donne aux enfants. Et il va commencer à s'intéresser à la peinture. Ça, c'est en 1890. Il va commencer à s'intéresser à la peinture. Et il va, tout en continuant à travailler dans son étude, il va s'inscrire à l'école de dessin de Saint-Quentin. Or, cette école de dessin est une école extrêmement prestigieuse. C'est un moment, à mon avis, qui n'est jamais souligné de la carrière de Matisse et qui est peut-être un des moments les plus intéressants de la carrière de Matisse. Il se trouve qu'en effet, cette école de dessin a été fondée par un des plus grands artistes français du XVIIIe siècle qui s'appelle Quentin Latour. Or, Quentin Latour a fait don à cette école d'un nombre de pastels considérable, et c'est en voyant ces pastels que la vocation du portrait, la vocation de la peinture vient vraiment à Matisse. D'ailleurs, il dira lui-même, je me souviens que lorsque je suis sorti du musée Quentin Latour, j'avais regardé ces visages souriants du XVIIIe siècle avec une telle intensité que j'avais les muscles du sourire crispés. Ça aussi, c'est un point très important dans l'œuvre de Matisse, c'est l'identification au modèle et qui est une identification presque physique.
Il me semble, Isabelle Fontaine, que dans toute l'œuvre de Matisse, on voit de temps en temps des portraits. C'est un thème, un sujet qu'il a toujours retenu et qu'il a traité de manière assez différente.
C'est un sujet qu'il a toujours retenu parce que Matisse s'est toujours servi de modèle. Justement, dans cette volonté de se relier à une réalité, il a toujours, je crois, utilisé des modèles. Et c'est je crois, un aspect assez extraordinaire et peut-être pas assez souligné, c'est ses qualités de portraitiste, parce que ses modèles ont été successivement les plus proches parmi son entourage, sa femme qui a posé à l'époque fauve, et puis encore pour le portrait qui se trouve maintenant au musée Pouchkin de Moscou, le portrait de 1913 qui est vraiment une effigie étonnante, où le visage d'Amélie Matisse est réduit à un ovale blanc vraiment comparable à un masque, et où en même temps, ce visage dégage une émotion et porte une ressemblance tout à fait manifeste. Et puis la fille de Matisse, Marguerite Matisse, qui a posé aussi depuis la petite fille des années 1905-6, qui figure dans de nombreux tableaux, jusqu'aux effigies des années 14-15, des effigies parfois sévèrement géométrisées. Et puis encore, dans les années niçoises, elle a très souvent relayé les modèles professionnels de Matisse à l'époque. Dans les années niçoises, justement, on voit se succéder des modèles, Laurette, Henriette, Antoinette, et plus tard Lydia et d'autres. Et chaque fois, donc, la ressemblance est là, mais chaque fois aussi, il y a une interprétation et une exploration par Matisse de toutes les possibilités plastiques du modèle.
Georges Besson, en 1970.
Matisse fait en effet deux portraits de moi. L'un entre le 10 et le 15 décembre 1917, alors qu'il était à l'hôtel Beauvau à Marseille. Il a fait un petit portrait en une demi-heure. Puis nous sommes partis ensemble pour Nice. Et un mois après, à l'hôtel Beau-Rivage, il a fait en 13 séances un portrait de même dimension de moi, voulant à tout prix que ce portrait ressemble à la fois à mon ascendance et à ma descendance.
Henri Matisse, enregistré en 1950.
Moi, je fais du portrait. Je fais du portrait d'une certaine façon. C'est-à-dire que quand je fais un portrait, d'abord je choisis mon personnage, eh bien, je crée une espèce de sympathie entre lui et moi que je représente sur mon portrait, sur mon travail. C'est en somme un mariage sentimental entre deux personnes, deux esprits. Voilà ce que c'est. Le portrait tel que je le comprends. C'est une identification de deux personnages. Et alors, il y a un sentiment, une poésie particulière qui vient s'ajouter à la ressemblance de l'individu, et qui n'est pas essentielle au fond. N'est-ce pas? Voilà, en somme, encore l'utilité du portrait malgré la perfection photographique. C'est une chose, la photographie. L'art, c'est une autre chose. Il n'y a pas de raison pour qu'on ne puisse pas encore chanter en regardant une personne, une figure qui vous est agréable, sympathique ou qu'on aime.
Pierre Schneider, qu'un des moyens de prendre conscience de la démarche, de l'originalité de Matisse, est au fond de voir comment il a envisagé le sujet. Il y a en réalité deux manières d'approcher le sujet.
Oui, la manière traditionnelle dans la peinture occidentale depuis, mettons, la Renaissance, c'est de prendre l'objet de votre tableau, ce qu'on appelle le sujet, et en exécuter sur votre toile un équivalent. Et l'œuvre devient, si vous voulez, comme le miroir, un miroir parfois embellissant de l'objet, que ce soit un objet réel ou un objet imaginaire. C'est ce que j'appelle, pour ma part, le procédé d'identification des choses. Et puis, il y a une autre manière de procéder. Cette autre manière de procéder, c'est celle qui a été répandue en Europe au moment de la romanité. C'est celle qu'on trouve encore dans les arts d'Orient, c'est celle qu'on trouve également dans les cultures dites primitives, où au lieu d'identifier les choses, on essaye de s'identifier aux choses à travers l'œuvre. C'est-à-dire, pour reprendre une parole d'un maître peintre chinois que cite Matisse lui-même, si vous dessinez un arbre, il ne faut pas imiter l'arbre, il ne faut pas copier l'arbre, il faut monter avec l'arbre. Eh bien, cette nouvelle façon de peindre, ou cette très ancienne façon de peindre, oubliée en Occident depuis la Renaissance, Matisse, petit à petit, et en partant de l'autre extrême, va essayer de la réintroduire dans l'art contemporain. C'est une des façons de définir son apport véritablement révolutionnaire, je crois.
Oui, et cela établit bien entendu des rapports tout à fait différents entre l'artiste et le modèle, que le modèle soit un être ou soit un objet.
Tous les rapports sont changés entre le peintre et le modèle, puisque ce qu'il s'agit de faire, c'est de s'identifier au modèle, c'est-à-dire de ne faire plus qu'un avec lui, ce qu'on ne peut faire que par l'amour, c'est-à-dire par la sympathie, par la familiarité, et il est assez significatif, par exemple, de voir que Matisse, toute sa vie, a peint 4 ou 5 thèmes, n'est-ce pas, qu'il a toujours repris les mêmes thèmes en leur faisant dire 20 choses différentes, mais que, au fond, ce n'est pas un peintre qui a cherché à multiplier les sujets de ce point de vue-là. Donc, il change radicalement l'attitude de l'artiste vis-à-vis de ce qu'il peint, puisque, au lieu d'essayer à identifier le modèle, il essaye de s'identifier avec lui. Donc de participer à lui, n'est-ce pas, au lieu de l'imiter, de le copier.
Dina Vierny.
Matisse, bien que grand bourgeois français, bien que, comme ça, on croit qu'il était très froid, pas du tout. Il était très drôle, il était très amusant, il comprenait tout, et très éclectique, et comprenant véritablement les êtres jeunes, et même admiratif et très gentil avec un être comme moi. On est devenus profondément amis. Il m'a beaucoup appris.
En 1892, Henri Matisse s'inscrit à Paris, à l'Académie Julian.
Lorsqu'il arrive à Paris, il entre chez Bouguereau parce que son père avait posé comme condition que... Il voulait bien qu'il vienne à Paris, mais qu'il fallait qu'il étudie avec un très grand maître, très célèbre. Il entre chez Bouguereau, il travaille avec Bouguereau. Bouguereau considère ce que fait Matisse et lui dit, mon pauvre ami, vous ne serez jamais peintre, vous ne savez pas ce que c'est que la perspective. Ce qui fait que Matisse ne s'attarde pas dans cet atelier et va rentrer alors à l'école des Beaux-Arts, dans l'atelier en effet de Gustave Moreau, qui va avoir une influence considérable sur Matisse.
Et où il connaîtra un nombre de peintres qui sont devenus importants.
Où il va rencontrer Marquet, où il va rencontrer Rouault, et où surtout il va rencontrer un homme, Gustave Moreau, qui fait exception à l'école des Beaux-Arts, qui fait exception en ce qu'il, bien sûr, conseille d'étudier au Louvre, mais qu'il n'est pas contre non plus la peinture, qui à l'époque fait frémir les professeurs de l'école des Beaux-Arts, ce qui est le plénérisme, c'est-à-dire les impressionnistes. Donc Matisse tombe sur un professeur très très ouvert et qui le laisse assez libre au fond de faire ce qu'il veut faire et de découvrir qu'en effet le Louvre est aussi important que le plein air. Il dira d'ailleurs à la fin de sa vie, ce que je veux faire c'est associer la tradition du passé avec l'avenir de la tradition. Donc là il travaille à l'école des Beaux-Arts, il s'en écarte assez vite, il rencontre celle qui va devenir sa femme. Et il fait pour la première fois en sa compagnie un voyage dans le Midi et un voyage en Corse. Et la lumière du Midi est un événement considérable. Un événement considérable, c'est une découverte aussi importante que la peinture.
Et cette lumière du Midi, il la retrouvera à Saint-Tropez, à Collioure, avec d'autres peintres d'ailleurs, et puis Biskra, encore Collioure, Cavalière, Séville, toujours Collioure, Tanger... Nice, bien entendu, et Nice, il finira par s'y installer.
Il va s'y installer...
Une première fois en 1918.
Oui, et pratiquement tout de suite après, je veux dire, il ne quittera plus Nice, il ne quittera plus cette lumière. Cette lumière, il faut dire qu'elle fait sa carrière, parce que lorsqu'il revient de Corse, en 1900, eh bien, il va commencer à s'intéresser au pointillisme à travers l'œuvre de Seurat et l'œuvre de Signac, qui vont être très proches de lui, et à travers le pointillisme, à des phénomènes de couleurs qui vont produire le grand événement de son existence et la grande découverte de son existence, ce qu'on appelle le fauvisme. Ce qu'on appelle le fauvisme et ce qu'on appelle le Salon des Fauves en 1900. Qui est le moment où Matisse s'impose à travers un portrait qui s'appelle La femme au chapeau, qui est un portrait de sa femme, qui est un portrait qui porte toute la trace de ce qu'il a observé avec la lumière du Midi, c'est-à-dire d'une couleur extrêmement violente et extrêmement vive et forte, qui scandalise absolument tout le milieu pictural français, et qui a cette fortune d'être remarqué par de grands collectionneurs qui vont l'acheter au prix que Matisse en demande, et qui est un prix à l'époque assez cher, qui sont les Stein. C'est Gertrude Stein qui achète la femme au chapeau et qui la met chez elle. Et c'est, à mon avis, à partir de ce moment-là que l'œuvre de Matisse vraiment s'impose comme matissienne, si je puis dire. Et c'est à partir de ce moment-là aussi que se noue quelque chose qui ne sera pas non plus indifférent à l'intérieur de toute la biographie matissienne, c'est la rencontre avec Picasso chez les Stein.
Daniel-Henri Canveller.
C'est en 1907, je l'ai vu pour la première fois, il habitait alors Quai Saint-Michel et j'allais le voir très fréquemment. Il a été d'ailleurs d'une gentillesse extrême vis-à-vis du très jeune homme que j'étais. J'avais vu en 1905, au Salon d'automne, la célèbre femme au chapeau qui m'avait beaucoup, beaucoup frappé. Et puis j'avais vu tous ces autres tableaux aux indépendants et au Salon d'automne. Et j'aimais beaucoup Matisse, je le mettais très haut. Je le voyais assez régulièrement. Et je dois dire que sa conversation était d'un charme et d'une intelligence prodigieuse. Je me faisais attraper à chaque fois que j'allais chez Matisse parce que je rentrais déjeuner à 2 heures au lieu de rentrer à midi. Tellement sa conversation me captivait. D'ailleurs, il pouvait parler de tout. Mais enfin, c'était surtout de peinture que nous parlions. Et puis alors, il avait déjà, ça a été lui le premier, contrairement à ce qu'il raconte toutes sortes de niards, il est le premier qui a vraiment eu une collection de sculptures nègres, car en 1907, il en possédait déjà au moins une vingtaine qui étaient alignées sur une table. Il en parlait aussi avec cette même intelligence.
À ce moment-là, vous étiez en pleine aventure du cubisme. Matisse, comment était-il par rapport à eux en tant que peintre ?
Vous savez bien, ou vous ne savez peut-être pas, que Matisse a d'abord été violemment hostile au cubisme, enfin à ce que faisait Picasso. Mais après, vous savez bien que Matisse a été très enthousiaste de ce que faisait Picasso. Et ça a été même leur amitié vers la fin de la vie de Matisse, a été une chose absolument touchante. Picasso, un jour, a emballé dans sa grosse voiture tout ce qu'il avait fait récemment, une quinzaine de tableaux, pour les porter chez Matisse pour le lui montrer. Et Matisse, de son côté, est allé dessiner d'après Picasso au musée Picasso d'Antibes.
Matisse a obligatoirement, je dirais, été non pas influencé, mais ouvert et exposé au travail de Picasso, de Braque à l'époque, puisque d'une part il était leur ami, surtout celui de Picasso, et d'autre part sa curiosité le portait évidemment à s'interroger sur ce que pouvaient bien faire ces jeunes peintres cubistes. De plus, il a très bien connu Gris, notamment en 1914, puisque Gris l'a rejoint à Collioure à l'automne 1914. Ils ont beaucoup parlé. Et Matisse a certainement essayé de, non pas seulement de s'interroger et de regarder, mais de s'approprier un petit peu de la recherche cubiste. Mais malgré tout, pas du tout de la même façon. Je crois qu'on peut difficilement comparer les tableaux du cubisme analytique, les tableaux de 1911-12, avec leur décomposition en facettes, et le travail de Matisse qui va toujours vers une expression par la couleur. Par la couleur et par le champ de la couleur. Donc cet aspect-là, très important. Et puis, Matisse s'est gardé de verser, si vous voulez, dans l'abstraction. Matisse est toujours attaché à la réalité. Mais certains tableaux ont été redécouverts dans les années 60 par les peintres abstraits de l'école de New York avec grand intérêt. Des tableaux comme Porte-fenêtre à Collioure de 1914, Le rideau jaune, La vue de Notre-Dame qui est au musée d'art moderne de New York sont des tableaux où le prétexte réel, une vue par la fenêtre, aboutissent à des tableaux où une sorte de champ monochrome est simplement traversé par des lignes presque abstraites.
Le groupe des fauves ne dure pas très longtemps, mais je pense que du commencement à la fin de sa vie, ce que Matisse a trouvé dans le fauvisme constitue le fond même de son art et le fond même de son œuvre. Ce qu'il a trouvé dans le fauvisme et ce qu'il a trouvé avec La lumière du midi se réalise avec un tableau qui est déterminant pour l'œuvre de Matisse, c'est La joie de vivre. Qui est un tableau, je crois, c'est de 1907. Et à partir de La joie de vivre, toute l'œuvre de Matisse sort comme, vous savez, comme ces poupées russes, dont la plus grande contient la plus petite, elles semblent sortir les unes des autres. Toute l'œuvre de Matisse sort de ce tableau qui s'appelle La joie de vivre ou Le bonheur de vivre. Eh bien, le fauvisme paraît en effet déterminant, et notamment un tableau de cette époque qui s'appelle Nuit bleue, souvenir de Biskra, qui est un tableau qui lui aussi va faire événement, puisqu'il va faire scandale à Chicago lors de l'exposition de 1913 de l'Armory Show. Il va faire semblable et être brûlé en effigie. Or, c'est très très étonnant, parce que la carrière de Matisse est entièrement faite comme cela. Tout se suit et tout est d'une logique impeccable. Ce Nuit bleue, souvenir de Biskra, eh bien, on va le retrouver tout à la fin de sa vie, dans les années 40, avec les grandes gouaches découpées et les grands nus bleus qu'il fait au même moment dans ces années 40. Le nu bleu souvenir de Biskra produit ces nus bleus comme la joie de vivre produit toutes les séries de la danse.
Pierre Schneider.
La couleur est évidemment, ça a été le véhicule majeur de cette révolution dont nous avons parlé de mille façons différentes. Il a commencé dans le sombre, dans les jus bruns, dans la tradition nordique. Et un de ses amis des toutes premières années, le peintre belge Permeke, disait de lui « Matisse, peintre savant dans l'art des gris ». Il est difficile, n'est-ce pas, de se dire que ça va être l'homme des dernières gouaches découpées absolument éblouissantes, l'homme dont Picasso disait un jour « il porte un soleil dans le ventre », n'est-ce pas ? Et pourtant, c'est comme ça qu'il a commencé. Et en Bretagne, en été 95, 96, 97, brusquement, il trouve la couleur, il trouve d'abord la lumière, impressionniste, mais très très vite il la dépasse pour arriver à une gamme de violet, d'oranger, de rose qui ne sont pas du tout réalistes et qui pour moi montrent bien plus qu'on ne l'a souvent dit l'influence de son maître Gustave Moreau. En tout cas, la couleur subjective est déjà en quelque sorte annoncée dans ces œuvres-là. Bien sûr, ce n'est qu'un premier essai. Matisse aussi revient en arrière. La Corse sera une explosion de lumière, Toulouse également, et puis de 3 ou 4 ans suivent où il sera dans les temps sombres à nouveau, dans les bleus cézanniens. Et puis brusquement, à Saint-Tropez, en 1904, en été, il rejoint Signac, et Signac, en fait, son disciple, et Matisse pointille. Oh, pas très longtemps, parce que le pointillisme était trop laborieux et trop méthodique pour un homme qui était un homme d'instinct. Mais enfin, Signac a eu cette grande importance pour lui de mettre la couleur pure sur sa palette. Elle ne l'a plus quittée depuis. Et alors, il s'est libéré de ce qu'avait de méthodique la méthode de Signac l'été suivant à Collioure, le fauvisme. Pourquoi la couleur? Eh bien parce que ce qui compte avant tout pour Matisse, c'est l'émotion, n'est-ce pas? C'est l'émotion qu'il a ressentie devant l'objet. C'est elle qu'il peint, je vous disais, et pas l'objet lui-même. Et puis, communiquer l'émotion au spectateur. Parce que la couleur est le véhicule privilégié de l'émotion, Matisse a fait de la couleur, en quelque sorte, la pierre angulaire de ce que je n'ose pas appeler son système, puisqu'il était le plus anti-systématique de tous les peintres.
Et plus encore que la couleur, les rapports des couleurs.
Oui, pour les autres fauves, la couleur, c'était une espèce de parure de fait mise sur une image assez traditionnelle, n'est-ce pas ? C'est-à-dire qu'on voyait comme tout le monde, mais qu'on coloriait plus vif. Ce qui compte pour lui, ce n'est pas la couleur, mais le rapport entre des couleurs. Il le dit d'ailleurs, une couleur, ce n'est rien, deux couleurs, c'est un rapport, c'est la vie. Et c'est la vie qui comptait pour lui. Et prenez par exemple l'admirable Desserte Rouge, ou de nouveau la musique et la danse de Leningrad, qui sont à Matisse ce que les Demoiselles d'Avignon sont à Picasso, et qui sont véritablement les monuments de la peinture du XXe siècle à son début. Eh bien, ces œuvres, qui sont la richesse même du point de vue émotif, qui disent tout ce qu'elles ont à dire, elles le disent, je vous disais, avec trois couleurs, le rouge le plus rouge, le bleu le plus bleu, le vert le plus vert.
C'est ça, et cette Desserte que Stchoukine avait vue bleue, quand elle est arrivée rouge.
Oui, alors ça, c'est une autre chose. Matisse avait commencé son tableau et c'était un tableau à dominante bleue. Et puis, chemin faisant, comme ça lui arrivait souvent, il a entièrement chamboulé son tableau. Mais ce qui est essentiel, c'est que l'émotion est la même. Et Matisse, à ce sujet, a une très jolie comparaison. Il dit, dans une partie d'échecs, les pions changent constamment de place et pourtant, c'est toujours la même partie.
Jean et Lyon.
Matisse continue à dialoguer avec la composition traditionnelle, enfin, n'est-ce pas? Ce qu'il a, c'est de nouveaux moyens pour créer l'espace. Au lieu de le décrire, n'est-ce pas, il l'a en quelque sorte débondiosé de ses apparences. Ce qui veut dire qu'il a débarrassé de tout un fatras psychologique et descriptif, de l'espèce de peau d'imitation. Et à la place de ça, il crée l'espace par le pouvoir des couleurs qu'il a connu mieux que personne. C'est sans doute par la couleur qu'il a influencé son temps, n'est-ce pas? En même temps que par ces grands espaces, n'est-ce pas, qui sont très légers et qu'il manipule comme des choses denses. Et cet homme qui a enlevé le dramatique de la plupart des compositions recrée une espèce de drame dans cette tension-là. C'est ce qui est très curieux. Un tableau de Matisse semble absolument dédramatisé. Une exposition de Matisse est toujours très dramatique. D'ailleurs, je crois que c'est un peintre religieux. Ce bonhomme qui n'a aucune bigoterie d'aucune espèce, qui est très détaché, donne un sentiment religieux. Il y a une gravité dans sa légèreté. J'emploie des mots contradictoires, mais c'est ce que j'éprouve pour Matisse. Sur Matisse, le contraire est toujours vrai aussi, vous comprenez ?
Georges Besson.
J'ai eu des relations très suivies avec Matisse, surtout à partir de décembre 1917. Il était à Marseille avec Marquet, qui était à ce moment-là le sous-locataire de Jeanne Montfort, qui est de Rive-Neuve. Matisse est allé à Nice le 15 décembre 1917, à l'hôtel Beau Rivage. À ce moment-là, il faisait beaucoup de violon, grâce à un violon qu'il avait acheté à mon violoniste parent. Le propriétaire de l'hôtel Beau Rivage lui avait donné une salle de bain lointaine où il pouvait faire ses exercices. Et c'est à ce moment-là que Matisse a émis le désir de connaître Renoir. Et j'étais un petit peu inquiet, parce que Renoir était assez prévenu contre Matisse. Des marchands de tableaux ou des collègues peu généreux lui avaient dit que Matisse était un type qui se foutait un petit peu de la peinture, etc. Et Renoir me disait, en effet, on m'a dit que Matisse était un type qui faisait de la peinture par-dessous la jambe. Et le père Renoir montrait, essayait d'esquisser le geste du type qui passe son pinceau sous sa cuisse. Mais dès les premiers contacts entre Renoir et Matisse, ça a très bien collé. Ils sont devenus des amis et Matisse allait presque chaque semaine montrer à Renoir ce qu'il avait fait. Et ça a été une surprise. Quand Matisse lui apportait les tableaux, il discutait avec lui, il disait « Mais cette tâche devrait venir en avant, vous me fichez en colère. » C'est tout à fait au point. En fait, ils étaient devenus très amis, discutant sur la durée des couleurs, etc.
André Masson.
Il était un homme très froid, réfléchi, froid d'aspect, hein, réfléchi. Et ce que je trouvais très bien à cette époque-là, tout de même, il se pouvait s'intéresser à un peintre même beaucoup plus jeune que lui. Et il s'intéressait à mon travail d'une manière qui n'était vraiment pas superficielle. C'est-à-dire qu'il regardait, et avec énormément d'ailleurs de précautions, me demandait comment je procédais. Ce qui fait que je lui demandais la même chose. Et par exemple, une des premières fois qu'il est venu, je faisais à ce moment-là des tableaux qui, sans être d'un surréalisme très caractéristique, je dirais, représentait quand même une sorte de liberté, n'est-ce pas ? Je partais de grandes nappes de couleurs, et c'est au moment où ces nappes, pour moi, devenaient insuffisantes, que j'ajoutais des lignes, et peu à peu, arrivait le thème. C'est cela, alors, justement, qui est intéressant, je crois, à dire, c'est que Matisse, m'ayant demandé comment je commençais, je lui dis, eh bien voilà, je procède de cette façon-là. Alors, le tableau, à la fin, je lui donne un titre, c'est un massacre, c'est une poursuite, généralement c'était des thèmes, n'est-ce pas, des thèmes très généraux. N'est-ce pas. Et il me dit, eh bien, c'est curieux. Moi, je procède exactement de la manière contraire. Je mets un bouquet sur la table, je voudrais que le tableau, une fois terminé, le tableau que j'ai fait d'après ce bouquet, il disait même d'après ce bouquet, qu'un jardinier puisse reconnaître toutes les variétés de fleurs, les nommer. Mais je ne sais pas ce qui se passe en route. Ça devient des jeunes filles qui dansent, etc. Enfin, il montrait là merveilleusement le moment où la poésie fait précipité chimique, n'est-ce pas ? Et alors, il ajoutait, c'est, au fond, c'est la même chose. C'est le contraire, mais c'est la même chose.
Son maître Gustave Moreau, après 2 ou 3 ans de présence de Matisse dans son atelier, lui a dit cette chose véritablement prophétique et qui est encore une fois un résumé de ce que fut la carrière de Matisse. Vous allez simplifier la peinture. Eh bien, on peut dire d'une certaine manière que si l'on voulait résumer les périodes de Matisse, c'est ça, n'est-ce pas ? C'est une longue marche vers la simplicité. Peinture sombre, réaliste, tout en modelé, en grisaille, en valeur au départ. Et puis brusquement, la couleur, c'est-à-dire les tons purs, c'est-à-dire l'absolue franchise des contacts, puis avec cette première anarchie des tons qui explose dans tous les coins de la toile, il éprouve le besoin de limiter le nombre des couleurs jusqu'à arriver à ces 3 tons qui constituent l'immense panneau de la danse et de la musique, n'est-ce pas ? Un vert pour le sol, un bleu pour le ciel et un rouge pour les corps humains. De là, simplification encore des formes grâce à la géométrie, que le même cercle puisse représenter un corps, une tête, une assiette, une frondaison. Et ainsi, avec des retours en arrière, il arrive petit à petit à cette idée que plus on est simple, plus on passe à l'espace de la rue, au fond, n'est-ce pas ? Donc plus on passe à la monumentalité. Et ce qui est très frappant, c'est que Matisse a senti, à partir d'une certaine époque, quelque chose qu'aucun peintre d'Occident n'avait osé encore formuler, À savoir que, à partir d'une certaine simplicité des moyens, la peinture de Chevalet était dépassée. Et le bond définitif en avant, au fond, s'est produit avec la grande décoration qu'il a faite pour le docteur Barnes, dont la version définitive se trouve aux États-Unis, mais dont nous avons le très rare privilège à Paris d'avoir la première version qui en est l'équivalent au moins aussi beau et aussi fort.
La danse.
La danse, oui.
C'est à Merian, près de Philadelphie, qu'a la fondation Barnes. Alors là, j'ai refait tout un plafond, c'est-à-dire, oui, un plafond, c'était ce qu'on appelle en architecture des lunettes, dans un plafond, n'est-ce pas, des espèces de voussures. Eh bien, alors, j'ai mis mes personnages, je les ai fait beaucoup plus grands qu'en réalité, n'est-ce pas, que supporter les surfaces, si bien qu'il y a la moitié d'un corps, on voit la moitié d'un corps qui sort du haut, un autre dans le bas est couché, donc j'ai donné enfin à cette surface qui était pas extrêmement grande, qui n'avait que 13 mètres, j'ai donné la possibilité d'y voir une danse beaucoup, beaucoup plus grande parce que je me suis servi de fragments. Le grand point à observer était que cette décoration était placée dans une salle immense dans laquelle il y avait les plus beaux Renoir, les plus beaux Cézanne, les Seurat extraordinaires. Et je ne pouvais pas, je ne prétendais pas et je ne devais pas lutter avec ces peintures. Alors j'ai dû prendre une gamme de couleurs qui était aérienne, un peu une peinture de plafond. Et puis alors éviter des couleurs comme le vert, c'est vrai. Mais en même temps, j'ai pris des grands contrastes noirs correspondant aux entre-portes. Et alors des compartiments roses, des compartiments bleus, des compartiments de diverses couleurs, de façon à créer une musique de couleurs qui n'avait rien de particulier avec la réalité. Rien que mon émotion qui était d'accord avec la danse. Il a surtout fallu que je donne dans un espace limité l'idée de l'immensité. C'est pourquoi j'ai mis mes personnages ne sont pas toujours entiers. Et l'intérêt était certainement, comme dans la peinture en général, l'intérêt est de donner dans une surface très limitée l'idée de l'immensité. C'est ce que j'ai fait à la chapelle de Vence. C'est dans une chapelle de couvent, et malgré tout, j'ai donné l'idée d'une immensité, ce qui porte sur l'esprit, qui porte, l'espace, même sur les sens. Et je crois que le rôle de la peinture, surtout la peinture décorative, est d'agrandir les surfaces, c'est de faire qu'on ne sent plus la dimension du mur.
Marcelin Plenet, le thème de la danse est très cher à Matisse, cher à l'homme, il aimait beaucoup en parler, mais on le trouve beaucoup dans sa peinture. Il y a des monuments déjà, mais aussi il y a des échos dans des œuvres des différentes époques.
Absolument. Matisse est un des rares artistes dont l'œuvre se joue comme un ensemble, dont les diverses parties ne cessent de se répondre. Et l'un des réponses constantes de l'œuvre, c'est la danse. Ça commence initialement dans un tableau qui s'appelle « La joie de vivre ». Bien sûr, la danse et la musique font partie de ce que Matisse considère comme la joie de vivre. Or, au milieu de la joie de vivre, qui est un tableau de 1905-1906, au milieu du tableau, vous avez une petite ronde de personnages qui dansent, et tout autour, vous avez l'organisation des figures du tableau. Mais le centre du tableau, c'est une petite ronde qui doit faire, 30 cm de large. Si vous considérez les deux grands panneaux de la danse qui sont faits autour de 1909-1910, dont l'un se trouve à New York et l'autre se trouve en Russie, eh bien, si vous les considérez attentivement, vous remarquez que ces deux grands panneaux sont entièrement la reproduction, à une échelle monumentale, de cette petite danse qui se trouve au milieu de la joie de vivre. La danse va rester pendant un bon moment dans son atelier, et ce qu'on va voir, c'est le tableau dans le tableau. Et ça, c'est une des particularités de Matisse. Alors on a donc la danse de 1909 qui sort de la joie de vivre, on a ensuite toutes les natures mortes, avec ou sans fleurs, à la danse, et on va avoir au moment où Matisse fait son premier voyage aux États-Unis et où il rencontre le docteur Barnes qui lui demande une décoration pour la maison qu'il a près de Philadelphie.
En 1930,
on va avoir à ce moment-là Matisse revenant très déclarativement et à une échelle encore plus monumentale sur ce thème de la danse, qui va d'ailleurs produire au moins trois événements. Une première étude qui a disparu pendant très très longtemps et qu'on a retrouvée dans l'héritage du fils d'Henri Matisse, Pierre Matisse, qui était marchand de tableaux à New York. Une seconde qu'il fait et qu'il va devoir écarter parce qu'on lui a donné de mauvaises mesures de l'espace architectural. Et la troisième qui se trouve toujours d'ailleurs à la Fondation Barnes à Marion, près de Philadelphie. La seconde se trouve à Paris, c'est un des grands chefs-d'œuvre du Musée d'Art Moderne de la ville de Paris.
Mais une fois ses œuvres accomplies, la danse ne sort pas de l'œuvre de Matisse.
La danse ne sort pas de l'œuvre de Matisse et elle va prendre le chemin que prend alors l'œuvre. Elle va prendre le chemin des papiers découpés et également le servir pour un ballet qu'il réalise et qui s'appelle, je crois, Rouge
L'étrange Farandole.
L'étrange Farandole.
Qui lui était demandé par Massine et où, curieusement, Matisse a été auteur du scénario en même temps que Massine.
J'aime beaucoup la danse. Je trouve que la danse est une chose extraordinaire comme vie, comme rythme. Et c'est tout à fait, je trouve ça très bien et je vis dedans très, très facilement. Si bien que quand j'ai eu à faire une danse pour Moscou, j'ai simplement été au Moulin de la Galette le dimanche après-midi et j'ai regardé danser. J'ai regardé notamment la farandole, souvent vers la fin de la séance, ou au milieu il y avait une farandole. Alors cette farandole est une chose très gaie, les danseurs se tiennent par la main, courent à travers la salle, entortillent les gens qui sont un peu égarés, c'est extrêmement gai. Et alors tout ça était sur une musique toute simple, une musique sautillante, et alors je connaissais bien cette chose-là, et quand j'ai eu à faire une composition, je suis retourné au Moulin de la Galette pour revoir ça. Alors, rentré chez moi, j'ai composé ma danse sur ma surface de 4 mètres et en chantant le même air que j'avais entendu au Moulin de la Galette. Si bien que toutes mes compositions, tous mes danseurs sont d'accord. Et ils dansent, n'est-ce pas, sur le même rythme.
Aux alentours de 1948, Jacqueline Duhem était auprès de Matisse comme aide d'atelier.
D'abord, il était très fermé, Matisse. Alors, je crois que pour le connaître, il fallait être de ses proches. Mais en fin de compte, il avait de l'humour, il était drôle. Souvent, il chantait des petites chansons marrantes qu'il avait apprises quand il était petit, ou du mouron pour les petits oiseaux, comme ça. Alors là, il rigolait, ça le faisait marrer, ou des chansons un petit peu sur le bord, d'être un peu cochonne, comme ça, du nord de la France, des vieilles chansons. Et puis, il rigolait. Et entre autres, il me disait toujours, Jacqueline, on dit pas ouais, parce que moi, j'étais de Paris, on dit oui. Oh ben j'ai dit ça non. Alors à la rigueur on dit oui. Alors il rigolait. Non, on se marrait bien.
L'illustration de livres, le plus souvent des œuvres poétiques, a longtemps intéressé Matisse. En 1932, Skira publie « Poésie de Mallarmé ». C'est un ouvrage que vous avez beaucoup aimé, François Chapon.
Il a réussi, dès ce magnifique volume, à poser ce rapport qui doit être celui de l'illustrateur moderne avec le poète. Non pas une illustration littéral, bien sûr, mais une équivalence. Et une équivalence qui réussit avec des moyens purement plastiques ce que le poète obtient par la suggestion du langage. Mais là où Matisse atteint un pouvoir rare de suggestion, c'est dans le trait qu'il utilise sur la plaque de l'eau forte. Et on peut se demander s'il n'y a pas eu dans son esprit une sorte d'émulation avec Picasso, qui l'année précédente avait confié au même Skira l'illustration des Métamorphoses d'Ovid. Parce que chez l'un comme chez l'autre, le trait est absolument uni, sans variation d'épaisseur, sans effet ni de lumière ni de profondeur, c'est un trait absolu. Et c'est là où on constate ce phénomène mystérieux qui est propre à tous les grands artistes, c'est que leur trait est impossible à confondre avec aucun autre. On dirait que le trait devient une sorte de ligne de crête qui amasse l'énergie, tous les pouvoirs en même temps de nous atteindre, de ces artistes, et devient alors, comme le verbe malarméen, l'expression pure, absolue, irremplaçable d'une vérité à exprimer.
Le plus souvent, c'était Matisse qui choisissait les auteurs qu'il voulait compléter.
Oui, dans la plupart des cas. Et Matisse était un véritable lecteur. Nous le savons par sa correspondance avec André Rouvert. Il éprouvait une véritable joie, par exemple, à lire Ronsard ou Charles d'Orléans et à extraire de leur œuvre des poèmes qui correspondaient à une impression de jubilation. Il y a toujours une joie chez Matisse dans ses livres et dans la façon d'exprimer ses impressions. Qui est caractéristique de son art, je crois.
D'ailleurs, Ronsard, il a longtemps travaillé là-dessus. Je sais bien qu'il y a eu la guerre, puisqu'il a commencé à en parler avec Skira en 1941, et que cet ouvrage, Florilège des amours de Ronsard, titre choisi par Matisse, oui, n'a été publié qu'en 1948.
Oui, au départ, il avait pensé donner à Skira des mémoires. Et puis, comme il le dit d'une manière très plaisante, je crois que c'est à Rouvert, il a constaté que ce n'était pas l'aspect le plus original de sa personnalité qui allait se déterminer, se définir dans ce texte. Et alors, pour consoler la déception de Skira, il lui a offert 30 lithographies pour En marche des amours de Ronsard.
Et très conscient de son âge qui était déjà avancé, il vante ce que peut être encore l'amour, la pensée de l'amour, oui, même à un monsieur âgé, et il dit « Qu'y a-t-il de plus délicieux que l'amour quand on sait en user, comme le feu, l'eau, l'air et la mer ?»
C'est ça. C'est-à-dire avec une certaine modération à ce moment-là. Mais il a été tellement séduit justement par la fraîcheur de l'évocation amoureuse chez Ronsard que le temps passant, au lieu des 30 lithographies qu'il avait promises, il est arrivé à près de 130, n'est-ce pas ? Mais pendant la guerre, alors il s'est exercé à l'illustration de ce recueil et il avait mis au point une impression dans un caractère peu utilisé qui s'appelle le calon. Et quand après la guerre, Skira est venu le retrouver, on a été obligé d'utiliser des caractères qui étaient déjà très usés, cassés souvent, qu'il a fallu réparer. Et enfin avait-on mis au point cette typographie, on s'est aperçu que les feuilles sur lesquelles on avait tiré les lithographies avaient jauni, parce que le temps avait passé, et on ne pouvait plus... il fallait donc refaire un tirage, et c'était plus possible, car caractère était usé. Alors il a fallu trouver un fabricant de caractères, il fallait surtout trouver les matrices originelles du calon, qu'on a trouvé à Bâle, à la fonderie Haas. Et alors, il a fallu retirer tout un caractère et recommencer en quelque sorte le livre. Mais c'est un véritable chef-d'œuvre, c'est une pleine réussite. Et c'est là où on voit que Matisse est essentiellement sensible à l'aspect plastique du livre. Il a dit, on l'a souvent cité d'ailleurs, cette phrase de son texte « Comment j'ai fait mes livres » où il compare la page typographique à une boule noire et la page illustrée à une boule blanche et il est le jongleur qui doit équilibrer les deux boules. Alors, c'est pour cette raison, par exemple, que dans le Mallarmé, il avait organisé les planches en fonction de non seulement du centre de la page, mais des marges qu'il fallait littéralement envahir pour créer un contrepoids harmonieux à la page typographique. Et on peut dire que là, il arrive à un accord vraiment musical.
Dina Vierny.
Il m'a beaucoup appris et je pense à lui très souvent parce que c'est lui qui m'a appris la typographie, c'est lui qui m'a appris la belle lettre. Je fais des livres maintenant, j'édite de mes catalogues, je fais des vrais ouvrages. Et toujours je pense à lui parce qu'il préside. C'est lui qui m'a appris la signification du garamond et la plante du garamond qui est la sauge. Presque tous les jours je pense à lui.
Aimé Mag.
Et la guerre m'a obligé à me retirer dans un petit village, dans une petite maison, sur la route de Courcegoul au-dessus de Vence. Et au pied de la propriété habitait Matisse. Et naturellement, Bonnard nous avait suivis. Ma femme avait rencontré Matisse et chez un médecin. C'est fait, nous avons pu lier contact. Et c'est une amitié qui a duré très longtemps. Et nous nous voyons, nous nous sommes vus pendant 3 ans, 4 ans, 5 ans, je me suis attendu jusqu'en 19... Il est mort en 54, donc ça fait plus que ça, ça fait 10 ans. Nous nous sommes vus presque tous les jours. Je cherchais surtout, et ça c'est une formule qui m'a toujours beaucoup ému moi-même, chercher la correspondance de l'homme. Si vous voulez, je cherchais la garantie de l'authenticité de l'œuvre dans l'homme.
Louis Aragon.
J'ai rencontré Henri Matisse à Nice en 1941. Nous habitions, Elsa Triolet et moi, une petite chambre sur la mer, au Ponchette. Et Matisse m'a su que nous étions là et m'a invité chez lui. J'ai été une fois, deux fois, trois fois, et puis finalement, dans cette grande période qui était pour nous une période de solitude et de tristesse, je suis devenu un familier de Matisse. J'ai été tous les jours chez lui, passé avec lui des heures, d'abord pour la conversation, et puis tout naturellement, il m'a demandé d'écrire un texte pour lui, pour les dessins qu'il était en train de faire. C'est qu'à cette époque, Matisse se trouvait juste... après cette opération grave qui avait failli lui coûter la vie, et il avait commencé au lit tout d'abord, avant de repeindre, par se remettre au dessin. Des séries de dessins où, partant de la nature dont il disait qu'elle avait été essentielle pour faire quoi que ce soit, mais qu'il en partait pour aller ailleurs, qu'il se servait de la nature comme d'un tremplin, et d'ailleurs il comparait en général son dessin aux jeux athlétiques et aux jeux du cirque, n'est-ce pas? Et il s'agissait pour lui, de même que l'acrobate fait un geste parfait et pour cela le répète sans fin jusqu'à ce qu'il soit parfait, il refaisait son dessin jusqu'à ce qu'il le connaisse assez pour que le dessin devienne comme l'expression d'écriture parfaite de la réalité.
Monsieur l'abbé Morel.
Je l'ai rencontré à peu près aussitôt après la guerre. Je le revois dans son appartement parisien qui était plein de couleurs et de lumière. Il était là déjà fixé au lit auquel il n'échappait guère qu'une heure par jour. Une petite table de métal lui offrait le moyen d'écrire et de dessiner. Il y avait sur elle un bloc en crayon et le courrier. Sa barbe grise était impeccablement taillée. Il était vêtu d'un chandail vert pomme et d'un pyjama qui avait le bleu d'un ciel de l'Île-de-France.
Jacqueline Duhem.
J'ai commencé à être chez lui avant, à la Villa Le Rêve, qui portait bien le nom qu'elle avait, parce que c'était vraiment très joli. C'était comme dans un tableau de Matisse quand on entrait. Une petite villa rose, carrée, comme ça, avec une toiture de tuiles provençales et des petits volets verts, bleu-vert. C'était très joli, entouré d'arbres, de cinéraires maritimes, de toutes les plantes qu'il dessinait, en fait. Des kakis avec des gros fruits rouge-orangés. Enfin, c'était superbe. J'ai beaucoup aimé la ville, le rêve. Et ensuite, là, on est allé à Paris, boulevard du Montparnasse, où là, j'étais impressionnée parce qu'il y avait une pièce qui était condamnée, où on n'allait presque jamais, et où il y avait des tableaux rangés dans des porte-tableaux. Et j'en ai regardé pas mal, parce qu'il y avait beaucoup de tableaux que je ne connaissais pas de Matisse à l'époque, parce que j'aimais beaucoup Matisse, j'avais essayé de me documenter avant d'aller le voir et où il m'a demandé d'ailleurs d'entrer chez lui comme aide d'atelier et un peu femme de ménage, disons, parce qu'en fait, il supportait pas non plus qu'on fasse le ménage parce qu'il avait peur qu'on lève la poussière, qu'on abîme ses beaux tapis, ses meubles, ses objets. Et ça, c'était moi qui devais m'en occuper. C'est-à-dire que je caressais un peu les tapis avec un chiffon humide.
Pour ne pas faire voler la poussière.
Voilà. J'essuyais les objets, mais il fallait surtout les remettre exactement comme ils étaient, parce que lui s'habituait à l'ombre portée, à la position. Enfin, c'était très... pas de bruit. Mathis aimait pas qu'on cogne ou qu'on fasse du bruit. Il fallait faire tout ça dans un silence exemplaire. Souvent, il travaillait pendant ce temps-là. Il faisait des exercices, même des lettres ou des bâtons. C'était un peu comme des gammes pour lui. Donc, il avait toujours un crayon à la main parce qu'il disait c'est un outil. Il ne faut pas laisser l'outil s'enrayer et il faut travailler de toute façon tous les jours, même si on n'a pas envie, même si on ne se sent pas de le faire, en faisant peut-être seulement des bâtons ou des lettres. Il faisait comme les bébés, des pages d'écriture. Moi, j'étais béate là, d'admiration parce que vraiment...
Mais respecter la place exacte, l'orientation de ces objets était d'autant plus important que les objets qui environnaient Matisse étaient ceux qui entraient dans ces tableaux.
Absolument. Moi, j'ai revu les objets maintenant au musée de Cimiez et j'étais toute touchée de voir que le pot avec les volutes, je l'ai essuyé en le remettant à l'endroit qui... Oui, chaque objet était très important pour Matisse. Je crois qu'il n'y avait rien, il fallait que rien ne choque son regard dans la pièce où il était. C'était toujours, il fallait faire les choses comme il les avait vues, comme il voulait les voir. Enfin, il était très exigeant là-dessus. Ça y est. Mais il m'expliquait des fois des choses, oui, pour le travail. Puis je dessinais aussi, moi, à mes heures, pas aux heures de travail, ça, il était assez sévère. Mais quand j'avais fini ma journée, genre 6 heures du soir, j'avais le droit de travailler pour moi. Alors je travaillais pour moi et il me corrigeait la nuit parce qu'il dormait peu, Matisse, il se promenait, il fallait qu'il se lève un peu quand même, alors il se promenait un peu la nuit. Alors il corrigeait mes dessins assez sévèrement d'ailleurs, s'il avait raison, il y avait de quoi, enfin.
Mais c'était du dessin que vous faisiez, pas de la peinture?
Non, je faisais du dessin, je faisais des fusains. Des fusains. Alors, par exemple, à un moment, il m'a demandé de faire le portrait du fils de la cuisinière qui était mort à la guerre. C'était une Polonaise. Et la pauvre femme rêvait que Matisse lui fasse le portrait de son fils en dessin, comme ça. Ben, il a dit, Jacqueline va vous le faire. Alors, elle nous avait donné une petite photo d'identité. C'était tout petit. Et moi, j'avais une feuille d'ingre. Alors, j'essayais. Je dis, mais c'est pas possible. Je dis, monsieur Matisse, vous rendez compte? J'ai seulement la petite photo et puis toute la feuille. Mais comment je vais faire? Comment je vais faire pour faire entrer ça dans la feuille avec la petite photo? Alors il me regarde d'un air sévère, il me dit « Parce que ça ne tient pas dans votre œil ?» Bon, alors j'attaque le fameux monsieur, je dessine son portrait comme je peux. Et puis le lendemain, je trouve une grande barre en travers de mon papier et il me met « Pourquoi vous avez fait une pomme puisque c'est une poire ?» Et le gars, en effet, il avait le front tout petit, puis la mâchoire plutôt large. Et moi, je n'avais pas osé, vraiment. Je me suis trouvé qu'en faisant un peu carré, c'était peut-être suffisant. Je dois dire que... Alors, j'ai recommencé, là, bien sûr.
Marcelin Plenet.
Après son opération...
1941,
Matisse a à la fois une aide et une infirmière. Et cette aide va lui servir de modèle pour un tableau qui a un titre qui, lorsqu'on songe à l'avenir de cette aventure, est un tableau très très étrange. C'est un tableau qui s'appelle « L'idole ». Et cette jeune femme qui pose pour Matisse pendant un certain nombre de mois finit par partir et par se convertir et par entrer dans les ordres. Et elle devient elle-même dominicaine. Elle entretient avec Matisse une conversation et une correspondance assez suivie. Et elle va être finalement placée dans un couvent qui se trouve à Vence, qui n'a pas de chapelle. Et elle va avoir l'idée elle-même de faire une petite chapelle pour son couvent. Et elle va faire quelques dessins. Et bien sûr, elle va venir prendre conseil auprès de Matisse, qui va d'abord lui donner quelques conseils. Et très très vite, il va prendre la décision de faire lui-même cette chapelle. D'abord, pour faire plaisir à cette sœur, pour faire plaisir à son ancien modèle, et puis très très vite, pour créer quelque chose qu'aucun peintre dans le XXe siècle n'a créé. Et avec l'aide d'un jeune architecte, il va pratiquement lui-même établir l'architecture de la chapelle de Vence.
Intérieur, extérieur, décoration.
Intérieur, extérieur, décoration, la flèche qui est au-dessus de la chapelle, les vitraux, le chemin de croix, les objets du culte, le ciboire,
les chasubles.
Et les vêtements du culte, les chasubles.
Cette chapelle de Vence sera le résultat de plusieurs années de travail. Les cartons sont aujourd'hui terminés et la réalisation matérielle est en cours. Les vitraux sont faits à Paris dans l'atelier de Bonny. Les céramiques sont cuites à Aubagne. Les murs s'élèvent sur fondations terminées. Les côtés des murs de la chapelle qui donne vers le vallon de Vence sera en vitraux qui partiront du sol jusqu'au plafond, ce qui est une nouveauté, en somme, dans la disposition du vitrail des églises. Le côté opposé sera en majeure partie décoré par des panneaux de céramique blanche avec des garnis de dessins noirs, ce qui ne sera pas céramique, ou vitraux sera recouvert de chaux. D'où voisinage de matières différentes et si voisines pourtant par la couleur. Le noir des dessins formant leur lien d'harmonie. Le sol sera recouvert de marbre de Carrare, de marbre blanc de Carrare, et sur lequel l'autel sera posé. Cet autel sera en belle pierre du Gard, celle dont les Romains se sont servis pour faire le fameux pont. La chapelle n'aura d'autre source de lumière que celle qui passera à travers les vitraux le jour, et pour le soir, un brasier ardent de lumière électrique rapprochée sera au-dessus de l'autel, près du plafond. Je veux que les visiteurs de la chapelle éprouvent un allègement d'esprit, que même sans être croyants, ils se trouvent dans un milieu où alors l'esprit est aisé, où la pensée est claire, et alors le sentiment aussi allégé. Moi, mon rôle, je crois, est donner de l'apaisement, parce que moi j'en ai besoin d'apaisement.
Matisse illustre les lettres d'une religieuse portugaise qui ont été éditées par Thériade en 1946. François Chapon.
Pour moi, c'est peut-être le chef-d'œuvre de Matisse dans le domaine du livre, parce qu'il y a un accord plastique, mais en même temps profondément spirituel, entre la passion qui est exprimée dans ses messages et la façon dont la traduit Matisse. Il n'y a absolument, comme dans le texte d'ailleurs, aucune couleur locale. Vous savez, dans les lettres de la religieuse, on trouve tout juste le mot Portugal, mais rien ne nous indique comment est son entourage. Et chez Matisse, il y a une façon d'évoquer le contexte de la religieuse par une flore, n'est-ce pas, des grenades, des pommes de pin, mais cette flore n'appartient pas du tout à une couleur locale. Elle est beaucoup plus les emblèmes, on peut dire, sexuels, n'est-ce pas, de la passion. De même, là où Matisse pousse très loin l'utilisation des formes, c'est dans ces grandes fleurs qui sont en frontispice à presque chacune des lettres. Ces grandes fleurs obéissent à un tropisme, tantôt vers la gauche, tantôt vers la droite, qui indique comme un mouvement de va-et-vient qui est celui d'une correspondance. Et elle a une sorte de distance qui est évoquée par des moyens purement plastiques. Enfin, cette distance dont je vous parle, elle est pour moi particulièrement marquée par le regard de la religieuse, qui est un regard toujours tourné vers l'ailleurs, vers un lointain. Cette religieuse, suivant ses émotions, ses impressions, elle évoque son amant au loin, et il y a là une continuité entre chacune des planches à pleine page, alors qui sont les visages de la religieuse, et qui me paraît vraiment un tour de force de la part de l'illustrateur, parce qu'il crée là un espace abstrait.
Avec toute la spiritualité qu'exprime cet ouvrage, on peut quand même dire qu'il y a dans beaucoup des œuvres illustrées par Matisse, on peut quand même dire qu'il y a, pour lui, ce qui a dû lui plaire, c'est l'exaltation de la femme.
Oui. D'ailleurs, quand vous dites spiritualité, je dirais, oui, spiritualité, parce que chez Matisse, il y a toujours un sens de l'abstraction, n'est-ce pas, qui fait qu'on va vers une expression totale, absolue. Mais cette spiritualité, elle est en effet inséparable de la sensualité. Et tous les éléments empruntés au monde végétal, animal, minéral deviennent des emblèmes d'un archétype de la beauté féminine qui elle-même se résume alors dans ces visages dont Matisse a parsemé ses œuvres et dont il nous a bien dit que ce qui l'y intéressait, ce n'était pas le contour, la ressemblance, mais une sorte de lumière intérieure qui émane du dedans et qu'on retrouve dans tous ces visages de Matisse. Visage, c'est d'ailleurs le titre qu'il a choisi pour illustrer et publier des poèmes de Reverdy.
Jacqueline Duhem, vous étiez chez Matisse comme aide d'atelier. Ce rôle ne se limitait pas à faire le ménage.
Alors oui, ça, j'ai eu un boulot assez difficile. C'était d'angoisser les papiers. C'est-à-dire qu'il faut croiser avec des gouaches. Et je faisais évidemment les couleurs sous sa directive, généralement des couleurs pures, avec les tubes de gouache assez purs. Mais le délayage est important. Et puis, il faut faire assez vite, parce qu'il ne faut pas que le pinceau, les traces de pinceau se voient, de façon à ce que les couleurs soient vraiment impeccables. Il n'y ait pas le reflet de l'ombre même de l'épaisseur de la gouache qui se voit. Donc, Matisse ne se servait pas de papier de couleur, déjà. Je l'ai vu faire ça pour une tapisserie qu'il avait fait faire à Aubusson, très belle. Ça, il s'est servi de papier d'emballage. Mais à ce moment-là, la tapisserie était donc reproduite en tissage. Alors, c'était différent. Alors que les vitraux, il fallait que les couleurs soient exactement, ou les papiers découpés soient exactement ce qu'il avait décidé. Donc, on les faisait à la maison, les couleurs. Alors là, j'ai appris énormément, parce que la gouache, c'est pas si facile que ça à manier, hein, faut pas croire. Et alors après, il découpait les papiers, donc là-dedans, il découpait les formes. Là, il faisait aussi, il a fait à ce moment-là la couverture pour verve du Cœur d'amour épris, donc dans des papiers gouachés. Et puis tous les vitraux qu'on a fait alors à Nice, dans c'était le grand appartement de Nice.
Quelle année?
Alors ça, c'était 48, je pense, 48-49 par là.
Oui, il disait, j'ai copié cette phrase de lui, « Dessiner avec des ciseaux, découper à vif dans la couleur, me rappelle la taille directe des sculpteurs. »
Ah oui, c'est sûr, c'est ça. Et d'ailleurs, comme les sculpteurs, je pense, ils dessinaient avant de couper. Souvent, ils dessinaient des formes, et puis il aimait beaucoup travailler en musique, et avec une certaine musique, et il redémarrait avec le ciseau pour faire sa forme comme il avait démarré pour dessiner au crayon. Il préparait ses formes, et des fois avec des ombres, il dessinait, et ensuite il découpait, mais vraiment comme un élan, comme ça. Enfin, c'était dans sa tête déjà inscrit, la forme qu'il faisait. Ça se sentait, ça se voyait. Et quand il n'était pas content de la forme, il fallait la déchirer en petits morceaux et puis la mettre à la poubelle. Et il recommençait. Avec des grands ciseaux à papier, il découpait. Amoureusement, je dois dire. On sentait qu'il prenait la forme avec une certaine volupté quand il dessinait. Quand il découpait une forme, c'était pas par hasard, hein. Alors, à part les vitraux, où c'était des petits losanges, alors à ce moment-là, il y avait quand même... Mais les losanges n'étaient pas toujours réguliers. Hein. Il y avait quand même... Bon, c'était plus... Le coup de ciseau était plus net, forcément. Il n'y avait pas un arrondi, là. À part les vitraux, oui, il a fait quand même les couvertures de livres en papier découpé. Et puis, les livres illustrés qu'il a fait à cette époque. Le Ronsard, les lettres de la religieuse portugaise. Donc, il dessinait.
Avec ces livres dont nous venons de parler, il s'agissait de gravures sur cuivre, de crayons lithographiques, je crois aussi de gravures sur linoléum.
Oui, mais... il aimait beaucoup le lino. C'est vrai, il a donné sa noblesse à ce matériau qui jusque-là était considéré avec un certain dédain. Et pour lui, il disait qu'il y avait une espèce d'immédiateté qui répondait à sa sensibilité.
Alors, autre immédiateté, celle de jazz. Bien en 47, alors ça, c'est Thériade encore.
C'est Thériade, sentant ce dilemme, ce problème qui s'est toujours posé au peintre entre la forme et la couleur, le contour et la couleur, lui avait proposé d'utiliser ces fameux papiers découpés où Matisse travaillait comme un sculpteur, n'est-ce pas? Et alors, il avait mis à sa disposition toutes les ressources, toutes les techniques de la reproduction moderne, en lui disant « on arrivera à rendre cette spontanéité du geste du découpage dans la couleur ». Et Thériade est un grand novateur parce que dans ses ouvrages, il a prôné une sorte de retour au manuscrit. Manuscrit est proprement dit, l'écriture. Vous savez d'ailleurs que Matisse a utilisé dans le jazz sa propre écriture comme une sorte de lien, d'accommodation entre les planches, n'est-ce pas, pour éviter un contraste brutal. Il disait que l'écriture dans le jazz était comme les astères dans un bouquet, n'est-ce pas, ça facilitait la transition entre les formes. Alors, il y a l'emploi de l'écriture, mais il y a aussi l'emploi de ce qu'on pourrait appeler l'enluminure. Et alors, Thériade a fait beaucoup de recherches pour traduire les planches de jazz dans leur fraîcheur, dans leur spontanéité, dans leur nouveauté. Et il est arrivé à une formule qui avait déjà été employée il y a très longtemps d'une manière un peu différente, mais enfin, utilisée quand même par Sonia Delaunay, qui était le pochoir, avec des gouaches de linel, grâce auxquelles on arrivait vraiment à traduire fidèlement les tonalités employées par Matisse. Je crois que c'est un de ceux qui a poussé le plus loin, avec Rouault d'ailleurs, le soin, le souci de l'architecture du livre. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il prenait un livre en main, depuis la page de titre jusqu'à la dernière vignette, au dernier cul de lampe, la justification du tirage, tout dépendait de lui et il y intervenait avec ce sens plastique qui était le sien et qui donne à chaque élément une part essentielle finalement dans une harmonie totale et indivisible. Car il est monstrueux d'enlever une planche, par exemple, d'un livre de Matisse. C'est un tout, c'est une architecture, à mon avis, indissociable.
Une vie, une œuvre, Henri Matisse. Une émission de Paul Chavas.
Matisse est vraiment un homme de son temps qui parie pour la vie contre la mort, pour l'être contre le non-être, pour la positivité contre la négativité. Et toute son œuvre se déploie superbement sur cette affirmation-là, la joie de vivre, le bonheur de vivre.
Je l'ai connu en 1904 à Montmartre, dans l'atelier de Picasso. Le bateau lavoir où peintres et poètes se rencontraient et s'influençaient tour à tour, comme a dit Picasso. On écoutait beaucoup Matisse parlant volontiers. On retenait beaucoup de ses propos. Mais Matisse ne nous ressemblait pas. Il était grave.
Il a été un homme très angoissé, d'après les témoignages de ses proches et son propre témoignage. Il n'était pas du tout le pacha serein qu'on peut imaginer. C'est un homme qui était en proie à l'insomnie, au questionnement incessant sur lui-même et véritablement à l'angoisse et au doute.
Moi, j'ai toujours considéré Matisse comme le dernier des rapins. Je me rappelle un jour à la Rotonde, c'était en 1920, je crois, nous étions plusieurs amis, il y avait Matisse, il y avait Marquet, et passe un violoniste ambulant. Marquet dit à Matisse, je suis sûr qu'il ne va pas nous jouer un petit air. Matisse prend le violon, monte sur une table et se met à jouer du violon en 1920.
Il était vraiment chaleureux, tendre, drôle, mais pour ça, il fallait vraiment le connaître. Quand on ne connaissait pas Matisse, c'est vrai qu'il avait un aspect extérieur assez froid, comme ça. Bien qu'un œil très pétillant de malice, en fin de compte, si on voulait, on pouvait déceler qu'il était comme ça.
Avec la participation de François Chapon, conservateur en chef de la bibliothèque Jacques Doucet, Jacqueline Duhem, peintre, Dominique Fourcade, écrivain, Isabelle Monofontaine, conservateur en chef au Musée national d'art moderne à Paris, Marcelin Plenet, écrivain. Et les voix de Henri Matisse et Louis Aragon, Georges Besson, Jean Hélion, Daniel-Henri Canveller, Aimé Mac, André Masson, l'abbé Morel, André Salmon, Pierre Schneider, Dina Vierny. Document INA rassemblé par Elisabeth Verrière. Mixage Christian Prévost, Philippe Bredin. Réalisation Christine Berlamont. Thank you.